RCF.
Merci d'écouter RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous Pauline de Torsiac, bonjour.
Bonjour Delphine, bonjour à tous. Le gouvernement a présenté hier son projet de loi controversé sur le logement. Le texte qui provoque une levée de bouclier du côté des associations de locataires sera d'abord examiné au Sénat vers la mi-juin. Ce dimanche, les orthodoxes célèbrent Pâques. C'est aussi la journée des chrétiens d'Orient. Une journée pour prier et mieux connaître le rôle de ces communautés. Et puis ce week-end, 25 opéras en France accueillent l'opération Tous à l'Opéra. Une initiative pour démocratiser l'opéra et en découvrir les coulisses. Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a présenté hier en Conseil des ministres son projet de loi pour le développement d'une offre de logement abordable. Dans un contexte de crise du logement et notamment du logement social, ce projet de loi provoque une levée de boucliers. La semaine dernière, le Conseil national de l'habitat, qui rassemble les acteurs du secteur du logement, s'est majoritairement prononcé contre la loi dans un vote consultatif. Parmi les mesures critiquées, le durcissement des règles pour les locataires qui ont des revenus qui dépassent le plafond de ressources. Pour Guillaume Eschelmann, chargé de mission logement social à l'association de consommateurs CLCV, c'est un retour de bâton pour les classes moyennes. Pour lui, le ministre se trompe d'objectif.
Le surloyer, il existe déjà. Il concerne une infime minorité de locataires. À ce jour, vous avez 3% des locataires du parc social qui dépassent légèrement les plafonds de ressources. Parmi ces 3%, seulement la moitié paye un surloyer, c'est-à-dire qu'ils dépassent de plus de 20% les plafonds de ressources. Enfin, seulement 8 000 ménages sur près de 5,5 millions dépassent largement les plafonds de ressources et du coup sont expulsables de leur logement, comme le prévoit déjà la loi. En voulant faire la chasse, soi-disant, aux locataires qui sont trop riches, en réalité, le ministre fait juste une mesure démago qui va attaquer directement les classes moyennes et mettre fin à la mixité sociale dans les quartiers. Sachant qu'en plus, ceux qui sont concernés en grande majorité par les surloyers, ce ne sont pas des couples, ce ne sont pas des personnes qui vivent grand train en HLM. Ce sont souvent des personnes âgées qui sont dans un logement social depuis plus de 30 ans et qui ne pourront pas se reloger dans le parc privé.
Ce projet de loi prévoit aussi d'assouplir la loi SRU qui oblige les communes à construire des logements sociaux ou encore de donner plus de pouvoir aux maires dans l'attribution de logements sociaux neufs. Une semaine après la mort du jeune Matisse à Châteauroux, une marche blanche est organisée cet après-midi en sa mémoire. D'après le préfet de l'Indre, entre 5 et 10 000 personnes sont attendues. L'adolescent de 16 ans a été tué à l'arme blanche samedi dernier par un mineur du même âge de nationalité afghane. La marche voulue sereine et solidaire par les proches du jeune homme sera surveillée de près par les autorités. Le président chinois Xi Jinping est attendu en France à partir de lundi pour une visite officielle de 2 jours. Objectif, célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Une partie du programme emmènera mardi le numéro 1 chinois dans les Hautes-Pyrénées à la station de ski La Mongie où Emmanuel Macron a ses habitudes. Sa grand-mère résidait un peu plus bas à Bagnères-de-Bigorre. Une délégation chinoise est d'ailleurs déjà sur place dans la station. Une présence, semble-t-il, pesante dans un village tranquille, Jean-Baptiste Labeur.
Oui, les officiels chinois sont bien présents depuis plusieurs jours en repérage et leur balai n'est pas passé inaperçu dans cette station de ski déserte avec la saison terminée. Des voitures noires et des minibus aux vitres fumées accompagnés de véhicules de gendarmerie qui ne sont pas de la région. C'est inhabituel, me confiait hier une habitante, jointe par téléphone, mais elle ne veut pas être enregistrée. La plupart des commerces et des hébergements sont fermés à cette période de l'année, à la Mongie, mais un hôtel a été privatisé pour la délégation chinoise. Et si le téléphone décroche, c'est pour nous indiquer avoir reçu pour consigne de ne pas parler de la visite du président chinois. Silence radio, la séquence est présentée par l'Élysée comme moins protocolaire, à côté du célèbre col du Tourmalet du Pic du Midi, pour des échanges plus personnels entre Emmanuel Macron et Xi Jinping.
Ambiance particulière donc à la Mongie. Des intempéries et des orages de grêle ont ravagé les vignes de Bourgogne. Un quart du vignoble de Chablis aurait été impacté et certains agriculteurs ont perdu près de 80% de leurs parcelles. Plus d'un mois après, les catholiques et les orthodoxes s'apprêtent à célébrer Pâques. Mais avant de célébrer la résurrection du Christ ce dimanche, le rite du feu sacré est répété en ce samedi saint à Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, aussi appelée Saint-Feu ou Sainte-Lumière. Cette flamme suscite la curiosité et la ferveur des croyants depuis des millénaires, car on dit qu'elle s'allume mystérieusement, Laurette Duranel.
Et oui, le feu sacré est considéré comme l'un des plus vieux miracles du christianisme. Depuis l'an 162, il s'allume mystérieusement chaque samedi saint à la veille de la Pâque orthodoxe. Et c'est au cœur de la Sainte Chapelle, à l'endroit même où Jésus aurait été enseveli, que le miracle se produit. Vers midi, le patriarche de Jérusalem entrera dans ce petit endroit muni d'une brassée de 33 bougies. Il aura été fouillé au préalable par les autorités israéliennes, ainsi que la chapelle et les alentours, afin de s'assurer qu'aucun allume-feu n'est présent sur le site. Après avoir prié pendant un long moment, porté par les kyrie et les sons des croyants, la torche va s'embraser sans explication rationnelle. Les prêtres récupéreront alors la flamme et la transmettront à l'ensemble des quelques 1800 fidèles rassemblés dans ce lieu. Bien sûr, tous ne croient pas à ce miracle. La cérémonie du feu sacré est taxée de supercherie. Plusieurs études scientifiques ont bien tenté de trouver une explication rationnelle à ce phénomène, mais aucune thèse ne se dégage vraiment.
Chaque année, ce surgissement du feu sacré donne lieu à une grande liesse parmi les croyants. Les cloches du Saint-Sépulcre résonnent pour annoncer la bonne nouvelle et la flamme est aussitôt envoyée dans le monde entier grâce à des vols apprêtés spécialement. En ce dimanche 5 mai, jour de la Pâque orthodoxe, a lieu également la journée des chrétiens d'Orient. Depuis 7 ans, cet événement organisé par l'œuvre d'Orient est l'occasion de prier, mais aussi de rencontrer des chrétiens issus des différentes églises, les maronites, les coptes, les arméniens, les syriens, les Grecs, Melkites, les Chaldéens ou encore les Éthiopiens, des communautés souvent minoritaires et parfois persécutées qui jouent pourtant un rôle social essentiel dans les sociétés du Moyen-Orient. Ils assurent notamment le fonctionnement de centaines d'écoles, d'hôpitaux, de maisons d'accueil et de chantiers de reconstruction. Ils veulent rester témoins de leur foi dans leur pays. Les explications de Mgr Pascal Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient.
Nous ne faisons pas pour eux, nous ne faisons pas eux. Nous ne sommes pas en charge de la mission. C'est eux qui sont en charge de la mission. C'est eux qui savent comment vivre leur mission. C'est eux qui sont capables de savoir où sont les vrais besoins. Après ça, ils témoignent de l'Évangile. Mais vous le savez bien, dans ces sociétés du Moyen-Orient, un travail d'évangélisation un peu explicite, un travail de conversion serait quasiment impossible pour les raisons que vous devinez. Et par conséquent, ils sont vraiment évangélisateurs dans l'exemple. Et je pense que ça touche un certain nombre de personnes. Mais ils vivent l'Évangile non pas dans un but commercial pour essayer de trouver de nouveaux adeptes. Ils vivent l'Évangile parce qu'ils sont chrétiens et que leur foi les incite à mettre en œuvre l'Évangile.
Et la messe annuelle de l'œuvre d'Orient sera célébrée demain en l'église Saint-Sulpice à Paris par Mgr Rafik Nara, l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. À noter que l'an prochain, les célébrations pascales auront lieu le même jour pour l'ensemble des chrétiens. En Île-de-France, les chrétiens seront notamment invités à se retrouver le dimanche de Pâques à la cathédrale Notre-Dame de Paris, tout juste restaurée. Tous à l'opéra ce week-end. Aujourd'hui commence la 17e édition de cette opération qui vise à démocratiser l'opéra et à en faire découvrir les coulisses. Les chanteurs, les danseurs étoiles, les costumières, les musiciens, les chorégraphes ou les régisseurs. L'opéra, c'est un monde qui fourmille de métiers autant que de passions. En tout, 26 opéras ouvrent leurs portes ce week-end autour du thème de l'esprit d'équipe. Année olympique oblige, Tous à l'opéra a reçu la labellisation Olympiade culturelle. De quoi donner envie d'aller au spectacle. Frédéric Perrouchine, directeur de la Réunion des opéras de France.
Le programme, il est très riche et varié puisqu'il y a 26 opéras partout sur le territoire qui participent et chaque opéra s'est construit son programme particulier. Alors évidemment, il y a beaucoup de visites de ces lieux qui sont quand même très particuliers avec des visites qui nous donnent à voir des choses qu'on ne voit pas même quand on vient voir un spectacle. Il y a aussi beaucoup d'ateliers de pratique, que ce soit de la danse, du chant, des choses liées aussi aux costumes, essayer les costumes, se faire maquiller, découvrir les coulisses techniques, assister à des répétitions ouvertes. Il y a même des maisons qui proposent des choses un peu plus excentriques, comme un concours de lassage de corsets. Il y a des escape games. Il y a vraiment plein de choses. L'idée, c'est que chacun, chacune puisse y trouver son compte et que chacun, chacune puisse vivre une expérience au sein de l'opéra ce week-end.
Et cette année, le parrain de Tous à l'Opéra est Guillaume Diop, danseur étoile du Ballet de l'Opéra National de Paris. C'est un match unique au monde qui aura lieu demain dans les Yvelines pour la première fois. Une sélection de prêtres va affronter le Variété Club de France de Jacques Vendroux. Un match qui se déroulera à Poissy au Stade Léo-Lagrande à partir de 15h. Une prière aura lieu juste avant la rencontre en mémoire des victimes du drame de Furiani.
Merci Pauline. On vous retrouve maintenant à 8h.